Alors bonjour tout le monde, ici Fitz le brasseur avec mon ami
Kev Enfu.
Kev Enfu, si vous nous entendez un petit peu bizarre, pour le monde qui ne nous regarde pas sur YouTube, c'est parce qu'on porte nos équipements de protection contre le coronavirus. Alors oui, vous avez deviné, aujourd'hui, on va vous faire une démonstration de corona.
Hey, on a décidé d'affronter toutes les terribles juste pour pouvoir vous divertir.
Puis en plus de ça, je vous le dis tout de suite, on n'a pas pris de chance, t'sais. On veut vous servir le plus longtemps possible. Des gros gants de brasseur, le masque anti-virus. Puis c'est parti pour le podcast. Ah, puis fuck off, man. On enlève ça.
Content de vous retrouver, tout le monde.
Salut tout le monde, c'est Fitz le brasseur. Aujourd'hui, on vous fait un petit podcast. Je sais que ça fait un petit bout qu'on ne vous l'a pas fait.
Et on s'en excuse.
Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu la grippe, mais une grippe assez solide que je pouvais plus déguster et plus boire grand-chose. Je suis dans la finale, fait que pour la dégustation d'aujourd'hui, c'est mon ami Kevin qui va pouvoir plus vous parler. Je goûte un petit peu, mes sens commencent à revenir. Puis inquiétez-vous pas, c'est pas le coronavirus que j'ai pogné. C'était seulement une grippe de 3 jours, mais une vraie grippe d'homme. Tu sais c'est quoi, mon Kev?
Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut que ma femme prenne soin de moi, parce que je suis sur le bord de la vie ou de la mort, mais c'est elle qui l'a pogné, que c'est chacun son tour.
Exactement. Pour le podcast d'aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un style.
On parle de la lager.
Un style qui est peu connu de nos amateurs de brassage, ou un style qui fait un petit peu plus peur, je dirais, à cause de la température de fermentation, je dirais, mon cave.
Ben c'est plus compliqué. Ça prend des équipements un petit peu plus sophistiqués pour être capable de contrôler la température. Puis les gens qui disent que les bières qu'ils voient sur le marché, comme les Bud Light, les Coors Light, les Molson et les Labatt de ce monde, fait qu'il dit « Hey, c'est pas grand-chose, c'est les bières les plus difficiles à produire. »
Mais Kev, c'est pourquoi qu'on appelle ça une lager?
Ah, tout ça vient de la levure. On a deux styles de levure qu'on a disponibles sur le marché, et qui est la ale et la lager.
On pourrait vous sortir les noms scientifiques, là, mais vous connaissez ma façon de dire les saccharomyces, saccharomyces, puis là, tu go, whatever. Fait qu'on va vous dire ça bien simple. Une ale, c'est une fermentation qui se fait à haute température. Puis quand on parle de haute température, ça peut aller de environ, je vous dirais, 16, 17 degrés jusqu'à 45 si on va dans
le bec. Fait que ça nous permet d'aller chercher des saveurs différentes. La levure travaille dans une période, une gestion de température différente qui va être à son maximum pour faire produire sa capacité de transformation.
Puis une lager, elle va fermenter à quelle température?
Généralement, on va dire entre 8 et 12 degrés Celsius, qui est beaucoup plus froid.
Malgré que certaines lagers peuvent fermenter vraiment plus chaud, jusqu'à 17-18 degrés, mais ça dégage beaucoup plus d'ester, et c'est pas vraiment le but quand on fait des lagers, de dégager une grosse ester qui est produite par la levure.
Le style de bière qu'on va déguster aujourd'hui, on a aujourd'hui de la compagnie Malmström, grâce à
attends.
Je recommence.
Aujourd'hui, grâce à Ça coule à flot. Kev, ils sont où, Ça coule à flot?
Sur Taschereau, dans la ville de La Prairie. Et que c'est une compagnie qui est très spécialisée dans tous les types de bières de microbrasserie du Québec. Une grande variété du stock frais qui arrive très régulièrement et qui nous permet d'avoir des très bons conseillers sur place si on ne connaît pas trop où les nouveaux styles qui sont arrivés sur le marché.
En passant, on déguste une bière de type lager. Vous l'avez deviné. Malmström, qui sont situés à Joliette, des excellents brasseurs, font des produits vraiment, mais vraiment bons. Ils ont commencé tout petit, puis ils grossissent de plus en plus. Fait que je pense qu'ils sont pas mal disponibles partout où j'ai vu, mais Ça coule à flot ont une bonne sélection. En passant, on parlait tantôt en intro de coronavirus, de corona. Hein? C'est un style de lager aussi, fait que on aurait pu déguster une corona, mais on a mieux encouragé les microbrasseries du Québec pour nos podcasts.
Un petit peu de local, un petit peu de vous faire découvrir qu'est-ce qui est disponible sur le marché pour essayer quelque chose de nouveau. Fait que aujourd'hui, la compagnie Malmström sont très spécialisés dans les lagers. Ils font des variantes, ils font leur propre style, ils vont déjouer un peu le style du BJCP, mais en restant dans les bases pour faire goûter et de trouver des saveurs.
C'est vraiment, vraiment des bonnes bières. Moi, j'ai bu pratiquement toutes les bières qu'ils ont mis sur le marché parce que je les adore. Puis vous savez, j'aime pas les bières très, très houblonnées. Puis eux ont tendance à me rajouter un petit peu, un petit kick de houblon un peu plus. Puis je trouve ça vraiment, vraiment bon. Fait qu'aujourd'hui, on déguste de Malmström la Pilsner Lager, une lager bavaroise non traditionnelle. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur l'étiquette. Ça, en plus, mon Kev, pour revenir à notre premier podcast qu'on avait fait, on parlait beaucoup de style, puis on va encore parler aujourd'hui de style. Malmström, là, il n'est pas gêné de le dire qu'il n'est pas traditionnel, sa bière. Fait que si vous voulez vraiment une lager pilsner, une pilsner lager bavaroise, bien vous savez que celle-là n'est pas traditionnelle, fait que fiez-vous pas à ça pour tout ce qui existe sur le marché. Lui, il la pimpe à sa façon, puis ça, je trouve ça merveilleux d'avoir l'audace de le faire, mais aussi de le marquer, sa canette. Bravo, champion Malmström, on est vraiment content de ça. Fait que je pense qu'on a assez parlé pour tout de suite parce que je commence à avoir la gorge un petit peu sèche dû à mon fin de grippe et non au coronavirus. Fait qu'on ouvre ça, cette petite bière-là. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kev?
Avec plaisir, mon cher.
Oh yeah!
Et voilà, de toute
question
beauté.
De couleur, là.
Fait qu'on va sur le côté paille, avec un petit peu brouillé, sur le côté jaunâtre, avec un beau collet qui reste. Et... au nez.
Je sens vraiment le grain. Puis
oui.
Le houblon, mais comme je vous dis, là, présentement, j'ai pas les meilleurs papilles puis le meilleur nez présentement disponible, mais je sens beaucoup le grain, puis le houblon très, très, très subtil, par contre, au nez, je trouve que le houblon est très subtil.
Mais pour le style, généralement, sur leur site web, vous pouvez avoir plus de détails de la description de la bière qui est très intéressant. Il vous dit les houblons qu'ils ont utilisés, il dit le grain qu'ils ont utilisé, et que ça vous pouvez voir comme référence quand vous allez déguster pour avoir une idée de les goûts d'houblons, les goûts de grain, qu'est-ce qu'ils ont utilisé.
Mais vraiment bon au goût. Même, ils disent non traditionnel, je ne sais pas si tu as combien d'IBU, sa canne?
De 20 à 25 IBU.
Puis dessus, eux, ils disent combien?
Eux confirment que c'est de 20 à 25 IBU qu'ils utilisent. Normalement, dans les styles de Pilsner allemande, on va regarder entre 20 et 40. Normalement, c'est un petit peu plus houblonné, un petit peu plus amer dans les styles de Pilsner allemande.
C'est vraiment bon. Chapeau Malmström, j'adore cette bière-là. Puis c'est sûr que j'avais déjà goûté avant.
Surprise.
Mais c'est sûr que... je vais aller en rechercher d'autres quand mes papilles vont être plus aiguisées, comme qu'on pourrait dire.
Et qu'est-ce qu'on peut goûter au nez et en bouche? C'est quand vous allez voir les houblons, donc c'est des houblons nobles, des houblons européens qui vont chercher le goût un peu plus épicé et floral. Et que vous allez pouvoir trouver ces saveurs-là facilement quand vous allez découvrir.
Je goûte l'épicé. C'est quelque chose que je suis capable de goûter présentement. Si on va dans le vrai style, mettons qu'on parle un peu du style de BJCP, c'est quoi une Bavarian Lager?
Bien, la lager Pilsner allemande, normalement, qui va être très sec en bouche. Et qu'eux, ils ont un petit peu plus de sucre résiduel que je peux goûter dans le fond de ma gorge qui fait un petit peu plus rond. Et que le style est très, très sec, qui va généralement chercher moins d'atténuation, donc au niveau... du température qu'on a fait du mash, la type de levure qu'on a faite, et on peut jouer aussi avec les minéraux d'eau pour aller chercher un goût un peu plus sec.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Oui.
Mais on n'a pas de... présentement, c'est pas sec comme bière, là.
Pas celle-là. J'ai pas trouvé qu'elle était sec en bouche, mais très facile à boire.
Super facile à boire, fait qu'on va se contenter de le laisser un petit peu plus loin de notre bras pour être sûr de pouvoir finir le podcast au complet très à jeun. Remarque que c'est pas avec une bière qu'on va devenir sous, mais c'est le fun de déguster la bière tout au long du podcast qu'on vous parle. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kev?
On veut rester en forme, puis on veut pas reprendre ce podcast-là une autre fois.
Ouais, exactement, parce qu'on l'a déjà repris. Une petite anecdote 101, hein? Ça arrive des fois. Aujourd'hui, comme qu'on disait, on va vous parler de style de BJCP. Ta mâche, à quelle température d'après la BJCP?
Pour avoir quelque chose de plus sec, on va mettre la mâche normalement environ à 64 degrés Celsius, qui donne en Fahrenheit.
49-150.
J'y fais confiance. Le but, c'est que la transformation à basse température, le sucre va se convertir plus longtemps, puis il va avoir plus de sucre, moins de sucre résiduel, donc la levure va être capable d'aller manger toute la conversion des sucres, donc moins de sucre résiduel, plus haut d'alcool, donc plus sec à la fin.
Plus sec à la fin. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, souvent quand on va parler d'un style allemand, les Allemands vont brasser à la décoction. Ça veut dire qu'ils vont utiliser un autre cuve qu'ils vont chauffer pour remettre le mou qui est très, très, très chaud dans leur mou pour monter la température, pour ajuster la température. Tu connais le style de décoction.
Oui, mais j'ai pas lu plus profondément que ça.
Ben, c'est vraiment ça qu'ils vont aller faire. Fait qu'ils vont vraiment transformer les sucres de cette façon-là. Fait qu'ils peuvent monter un petit peu plus haut la température. Probablement qu'on peut avoir plus de sucre résiduel comme ça parce que c'est un petit peu plus difficile à contrôler. En tout cas, je pense, j'ai jamais travaillé en décoction, mais ça doit être un petit peu plus difficile à contrôler tandis qu'avec nous, avec les grandfather, hein, qu'est-ce que vous voulez, on brasse avec des grandfather souvent, mais avec les grandfather, on a une température tout le temps constante, fait qu'on travaille pas vraiment à la méthode décoction. Puis il y a pas grand brasserie qui utilise cette méthode-là en Amérique du Nord, je crois, là. Je pense que Malmström l'ont déjà fait. Je ne sais pas s'ils brassent maintenant comme ça. Je suis pas assez longtemps, je ne les ai pas vus.
Au niveau de l'équipement, la façon qu'ils font, la longueur que ça prend pour atteindre les paliers de température, et que c'est tout un défi. Je leur lève mon chapeau s'il le fait. Aujourd'hui, comme on avait parlé, avec les grains qui sont de plus en plus efficaces, normalement, une température stable va être capable d'aller chercher le maximum du sucre en une étape de température.
En passant, tu parles de Pils maintenant très bien modifié, là, mais le Pils Strad est justement fait pour ça. Pour faire des décoctions en passant.
Oh, parle-moi en plus!
Ou faire des paliers de température. Qu'est-ce qu'on fait plus présentement? C'est pour les styles vraiment allemands. Fait que si vous voulez l'essayer, vous utilisez le Pils Strad qui est disponible à la boutique du brasseur. Me semble que ça fait un petit bout qu'on a parti ça, puis je vous ai pas parlé encore de ma boutique. Hein? Fitz le brasseur a la boutique Le Brasseur à Delsun, aussi disponible en ligne au www.lebrasseur.com. CA, vous pouvez faire vos commandes en ligne, vous pouvez commander des houblons, des reins, de l'équipement, et vous pouvez aussi avoir accès à tout via des liens, notre podcast, notre YouTube, et nos chandails, etc., etc., puis plein de nouveautés qui s'en viennent pour la prochaine année.
Et si vous manquez d'originalité, puis vous ne savez pas quoi brasser, appelez Fitz ou vous voulez créer une nouvelle recette, Fitz est là pour vous aider.
Sinon, vous pouvez aller sur la nouvelle page de Kev en Fût. Je ne sais pas si on en avait parlé dans le dernier podcast. Kev, il y a maintenant sa page Facebook, Kev en Fût. Fait que si vous voulez l'aider, il va être vraiment content. Puis en plus de ça, vous pouvez y poser des petites questions. Là. Je suis sûr que ça va remonter son ego un petit peu de vous répondre.
Ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. J'essaie d'être de plus en plus actif. Lui, il était malade pendant un bout de temps. Ma conjointe était malade. Nos projets ont été mis un petit peu de côté. Et qu'on va essayer de se reprendre en main pour pouvoir vous divertir et de pour continuer à alimenter votre passion.
Oui, puis je vous dis présentement, là, ça s'en vient super bien. La maladie commence à se tasser un peu de mon côté. Les projets plein la tête parce que pendant que j'avais un petit peu plus de temps à dormir, ben j'ai eu plein de nouvelles idées, fait que plein de nouveaux podcasts, plein de nouvelles personnes avec qui qu'on va en faire. Dans pas long, ça sera plus juste moi et Kev qui va être là, ça va être d'autres mondes. Mais pour revenir à notre fameuse bière.
Oui.
Quel est le nombre d'IBU qu'on doit mettre dans ce type de bière-là? Même si on l'a déjà dit, on va suivre le processus.
Oui, pour le guide, si vous voulez faire quelque chose dans le style très serré du BJCP, sans être dans le nom traditionnel, on regarde entre 22 et 40 IBU. Donc, pour un type de bière à plus bas pourcentage d'alcool, le nombre d'IBU doit être assez élevé. Donc, c'est vraiment considéré comme une bière amère.
Quand même, hein? Fait que les Anglais aussi, les Allemands aussi faisaient des bières amères. En tout cas, pas autant qu'une New England IPA ou qu'une IPA, mais quand même assez amère pour le type qui sont habitués de boire des pilsner trad, si vous voulez.
Oui, et que celle-là, comme, qu'est-ce qu'on goûte? On a un goût un petit peu moins sec, on goûte le houblon, ça c'est correct dans le style, la couleur est correcte dans le style, puis ainsi de suite. Et qu'au niveau de la couleur, on regardait que c'était un jaune un petit peu côté paille, et avec une bonne tenue de mousse, on voit le côté qui continue à rester. La carbonisation va généralement de moyenne à élevée. Et qu'on peut jouer dedans, mais on veut... Qu'est-ce qui est le fun? C'est que si c'est pas trop élevé, que ce soit quand même relativement facile à boire parce que ça rentre très bien et on peut apprécier toutes les saveurs qui nous restent en bouche.
Et j'ai hâte de pouvoir les apprécier plus que ça.
Ah.
Après ça, ben, vu que c'est un type lager, c'est quoi la température?
Et qu'on a parlé qu'on fermentait à environ entre 8 à 12 degrés Celsius, donc à très basse température, mais c'est là que tout est complexe. Le but est de tenir la température pendant le long de la fermentation.
OK, mais comment je fais ça? Moi, tenez ça à 8 degrés, je rouvre la fenêtre de mon sous-sol avec le chauffage dans le tapis puis j'espère que ça reste de même.
C'est ça, ça va chez vous? Coûter très cher d'électricité si vous faites ça. Puis vous allez geler, puis ça ne veut pas dire que vous allez contrôler votre température. N'oubliez pas que quand la fermentation commence, ça crée une chaleur. Comme Fitz l'a dit tout le temps, comme exemple, plus qu'on bouge sur place comme un fou, plus qu'on va quand même suer. Donc, on va avoir chaud. Et que la température va quand même monter à l'intérieur de la fermentation, même si l'environnement reste très froid, parce que le milieu devient toujours plus chaud. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir de l'équipement spécialisé pour être capable d'avoir un produit stable qu'on contrôle pour avoir un résultat continu.
OK, mais on parle d'équipement spécialisé, genre...
La belle bébelle que j'ai eue l'année passée et que je suis très, très heureux d'avoir, c'est un refroidisseur au glycol. Pour ça, il va falloir avoir le refroidisseur au glycol et l'équipement des fermenteurs pour être capable que le glycol va passer dans les parois du fermenteur pour pouvoir contrôler la température. Donc, s'il y a des hausses ou des baisses de température, notre appareil va nous permettre d'avoir une température stable en tout temps.
Oui, sauf qu'on peut aussi utiliser un coil pour mettre à l'intérieur notre bière puis faire passer notre glycol à l'intérieur au lieu d'avoir un double paroi. Présentement, en amateur, le seul double paroi qui existe à mon humble connaissance...
Ouf. C'est rare que ça arrive qu'il dit qu'il est humble.
Oui, c'est très rare, on pourrait en parler longtemps de ça. Donc, à ma connaissance, le seul à double paroi qui existe en amateur, c'est celui de Grandfather. C'est celui que je recommande le plus parce qu'il est très, très, très facile à laver. Puis souvent, quand on a un conical, un vrai conical en acier inoxydable, ben toutes les petites gadgets qu'on rajoute, là, le testeur, le ci, le ça, le coil, puis tout, c'est tout des nids à bactéries, ça. Fait qu'il faut vraiment tout bien nettoyer, tout bien stériliser avant de remettre une bière dedans parce que c'est la pire place pour infecter, c'est en fermentation. Tandis que le fermenteur Conical de Grandfather, qui est présentement, si vous achetez un Conical, vous avez 20 et 25 % de rabais sur le refroidisseur. Si vous achetez deux fermenteurs, vous avez 50 % de rabais sur le refroidisseur pour un temps limité. Ceci dit, il est beaucoup plus facile à nettoyer parce qu'il y a juste une valve qui a tout dedans. Fait qu'on défait le tri-clamp qui est au fond et on laisse tremper notre valve. On peut l'ouvrir un petit peu, laisser tremper notre valve dans PBW ou si on est vraiment un freak dans l'eau bouillante pendant 10 minutes, il n'y aurait plus rien là-dedans.
Mais en même temps, le Grandfather a un côté pour chauffer. Il y a un élément chauffant à l'intérieur. Donc, dans les deux côtés, si jamais ça commence... Tu as un élément chauffant.
Non, je sais qu'un pad chauffant d'un côté, mais on va le laisser.
Le résultat est le même.
Oh oui, il chauffe.
Ça chauffe. Ça chauffe?
Ça chauffe.
Ça chauffe. Donc, si ça commençait à monter, à descendre trop bas, mais dans ce temps-là, le refroidisseur va arrêter et le coussin chauffant à l'intérieur, qu'on ne voit pas et qui est protégé, donc on peut le laver sans aucun problème, va remonter la température au même principe que, quand on parlait de température de fermentation, quand on veut faire un diacétyl reste.
Oui. Ça, diacétyl reste, c'est super facile. Tu montes la température super vite, tu descends super vite. Ah non, c'est pas ça!
Bel essai, mais vous allez avoir vos résultats si vous voulez essayer ça. Ça, c'est entre vos mains.
Pour vrai, pour faire la diacétyl reste, il faut monter tranquillement la température, puis c'est vraiment long. Pour la laisser environ 3-4 jours, que là, toutes les mauvaises odeurs puis tous les mauvais goûts vont ressortir. Puis par la suite, on va aussi redescendre très tranquillement.
Donc, si on remonte la température, le but, c'est qu'on va activer la levure à donner un dernier boost. Et veut pas, la levure lager va donner des goûts de soufre.
Oui.
Donc, par elle-même, en montant la température, la levure va remanger ces saveurs-là. Donc, elle va baisser le goût de soufre dedans. Puis, on n'aura quasiment plus rien. Comme on a parlé dans le style tout à l'heure, dans le Pilsner, avoir un petit goût de soufre dans ce type de bière-là est quand même acceptable. Et que c'est pas condamné, c'est pas un mauvais goût pour dire « Non, ta bière n'est pas bonne. » Ça fait partie du style qu'on peut avoir un petit goût de soufre dedans.
Mais on n'en veut pas trop.
Non, parce que ça devient désagréable puis ça se boit pas bien par la suite.
Par la suite, on va descendre tranquillement la température.
Et pour quelle raison?
Ben, un, pour éclaircir la bière.
Mais pourquoi lentement?
Ah, parce que sinon, ça va faire une suction.
Et que tout, qu'est-ce que vous avez pour bloquer l'oxygène à rentrer, c'est une pression
négative
qui va faire que ça va absorber carrément l'oxygène à l'extérieur.
Ou votre Star Sun.
Oui, qui généralement qui va être les deux. Votre Star Sun va tomber dans votre bière et l'oxygène va rentrer continuellement parce que ça va... Vous allez voir, quand vous faites la fermentation, il y a plein de bulles qui sortent. Bien, ça va faire la même chose, mais sens contraire. Toutes les bulles vont rentrer par en dedans. Puis vous allez voir, c'est très actif.
Si on y va plus tranquillement, oui, il va se créer quand même une petite suction. Par contre, la couche de CO2 qui est plus lourde, l'oxygène va aller par-dessus et ça ne va pas toucher à votre bière, ce qui va vous aider à conserver votre bière dans un endroit plus...
Ça va rester plus longtemps. Votre bière va goûter meilleur pendant plus longtemps.
Pourquoi que ça arrive, ça, cette succion-là? C'est que votre gaz CO2 se comprime.
Les deux ont compris.
OK. Bien, c'est ça. Ça se comprime au froid. Fait que si vous voulez faire le test, là, mettez votre bonbonne de CO2. Regardez à quel niveau de CO2 il y a dedans, en PSI. Et mettez-le au froid. Vous allez voir, l'aiguille va descendre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins. Ça veut dire que le gaz est plus comprimé. Ça veut dire qu'il prend moins de place. Ça veut dire qu'il y a plus de place pour mettre d'autres choses.
Et pour ceux qui font la plongée sous-marine, le principe est pareil. Mm-hmm. Faites des recherches. Soyez prudents pour que ça explose.
Ben, c'est pour ça qu'on prend de l'argon ou d'autres types de gaz qu'on va descendre vraiment, vraiment, vraiment profond. Ben, je pense pas que c'est un podcast sur la plongée sous-marine.
Ouais, on a un peu été par là-bas. Là. Donc, dans le cycle qu'on parlait, tout à l'heure, on parlait au niveau de l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'on veut comme alcool au niveau d'une Pilsner?
On en veut de l'alcool.
Donc, c'est pas comme une saison. C'est pas du 3%. On va généralement aller dans le 4.4 à 5.2. Donc, une petite bière d'été, facile à boire, qui va avoir quand même un petit kick, mais qu'on va pouvoir apprécier. Et que celle-là ici...
4.5.
Et voilà, on a du 4.5.
J'avais vu 22C, mais 22C, c'est la consigne. 20C.
C'est Vincennes.
Vincennes, la consigne. Hein? Fait que ramenez vos canettes aux endroits consignés, s'il vous plaît. Ça, là, c'est récupérable vitam aeternam, là. Fait qu'on le ramène, on le fond, on en fait un autre. On le ramène, on le fond, on en fait un autre. On le ramène, on le fond, on ramène un autre. Ça prend beaucoup, beaucoup moins d'énergie à la planète en tant que telle, mais aussi aux humains, puis au gaz, puis à toutes ces choses-là, de refondre une canette et d'en refaire un autre que de prendre le minéral, d'extraire le minéral de la terre pour créer l'alumine, puis après ça, créer de l'aluminium avec. Parce que l'aluminium est fait avec l'aluminium. Pas grave, on n'est pas dans un cours de physique d'aluminium.
Non, j'ai pas fini mon secondaire.
Ah, OK, c'est bon ça. Fait qu'un petit 4,5% pour celle-là. Le monde qui me connaît sait que j'aime mieux les bières à faible pourcentage d'alcool parce que je peux en boire un petit peu plus. Puis ça, on aime ça, boire un petit peu plus de bière. J'aime ça goûter, déguster beaucoup de bières. Fait que je peux prendre deux bières au lieu de juste une à 10%. Hein?
Avec le temps, on apprécie les bonnes choses. Ça va comme la nourriture, ça va comme n'importe quel produit. On veut l'apprécier. Et que c'est fini le temps de dire « Hey, je prends ce bière-là parce que c'est 18% pour 5$. » Non, c'est fini ce temps-là.
Non. C'est,
Bullseye. Tu connais ça, Bullseye?
Non.
La tournade?
Tournade. Mais tournade, ça goûtait le fruit. Et hey, puis en passant, là, on va déroger un peu, là. Mais pas habitué de
non, jamais de la vie.
Mais dans la boomerang, beaucoup de brasseurs amateurs, quand tu leur parles de bière aux fruits, tout de suite, qu'est-ce qui vient à leur esprit? On est un peu toute la même génération, là, on va vous dire. Là. C'est le méchant boomerang qui existait, que tout le monde s'est souvent saoulé la gueule avec ça et a été malade comme un chien, il faut le dire. Tu sais, c'est dans le temps que tu disais tu devrais ôter ton page de ton costume de bain. Là, tu disais hey, moi, je sauterai jamais dans l'eau avec mon page. Deux minutes après, qu'est-ce qui se passait? Deux petites tournades dessus, deux minutes après, pouf, dans l'eau avec le page. Tu te rappelles-tu de ce temps-là avec le page?
Ouais, écoute, c'était hot d'avoir un page. Puis là, tu t'envoyais un page à quelqu'un, tu faisais 9 à 1 pour qu'il te rappelle rapidement.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle, là, un page, là, c'est un petit instrument qu'on avait sur nous, que tu envoyais ton numéro de téléphone. Fait que quand tu appelais ce numéro-là, tu pouvais juste marquer quelque chose avec ton numéro. Fait que ça marquait juste des chiffres, puis tu mettais ton numéro. Puis quand tu recevais le page, il fallait que tu trouves un téléphone pour le rappeler. Puis ça, mes amis, ça coûtait 15 à 20 piastres par mois.
C'était compliqué. Donc, pour ceux qui étaient sur la route, il fallait qu'il y ait du change pour trouver une cabine téléphonique publique pour être capable d'appeler quelqu'un. Puis en fin de compte, c'était pas vraiment urgent qu'on s'est dépêché pour rien.
Exactement. Mais ça, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire de la boomerang avec l'histoire du page. Fait que oui, si vous voulez faire des bières aux fruits, mes amis, là, ça va pas goûter qu'est-ce que ça goûtait la boomerang. Puis on va pas vous traiter de tous les noms qui existent sur la Terre pour dire que vous brassez pas de la bonne bière parce qu'il y a des très, très bonnes bières aux fruits qui se créent. Et qui se brasse et qui se boit aussi. Arrêtez de penser juste à la boomerang.
Mais dans un sens,
c'est si la on se rapporte. La tournade. La tournade.
Il y avait les deux. Là.
Hey, moi, j'ai un chandail de la tournade encore.
Wow. T'es vintage.
Je suis vintage à l'os.
Mais notre goût se développe. Et qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de l'IPA, au niveau des épicés, puis ainsi de suite? C'est le même principe. Ces bières-là, c'était des bières sucrées. Donc, on cherchait juste quelque chose de facile à boire qui était très sucré. Aujourd'hui, pas capable de stander ça. Là. Si c'est trop sucré, je veux avoir des vraies saveurs et non cachées par un excédent de sucre.
Exactement. Et en passant, il y a des très bonnes bières sucrées, là. On dit pas qu'il n'y a pas de bières sucrées qui sont bonnes.
Mais on trouve un équilibre dans les saveurs. Puis à part ça, c'est votre goût. Des fois, c'est rien qu'un début. Vous allez apprendre à aimer de la bière, quelque chose de sucré. Puis par la suite, vous allez continuer. Puis vous allez découvrir d'autres choses. Puis vous allez aimer de moins en moins ça.
Ouais. Fait que vous allez retrouver à vous commander un chiller pack avec un fermenteur. Puis là, un fermenteur ne sera pas assez. Vous allez en acheter un deuxième. Puis là, après ça, bien, vous ne voulez plus l'utiliser au touri. Vous allez les mettre à vendre. Vous allez acheter un troisième fermenteur. Puis un coup, vous avez tout ça, votre femme va vous dire « Hey, les grands, t'as dépensé tellement d'argent dans les fermenteurs, il faudrait peut-être que tu brasses un petit peu plus. »
Je sais pas de quoi tu parles.
Hey, en passant, là, on avait parlé dans le... En passant, on avait parlé dans le deuxième podcast là, de ton casque qui avait explosé chez toi. Là. Tu te rappelles du casque qui avait sauté?
Peut-être.
Tu sais, que t'as mopé, là, c'est partout, là.
Ouais, ouais, j'ai pas encore regardé les démarches en dessous du plancher et que présentement, je t'en dénie encore.
Fait que... Pour votre information personnelle, vous savez que j'ai fait un casque 3 semaines après Kev.
Mm-hmm.
Présentement, ça fait-tu assez longtemps là, pour dire que mon casque n'a pas sauté encore?
Ben, j'aimerais ça me défendre, mais je peux plus me défendre.
Fait que, mon casque est prêt. J'attends que Kev y brasse le sien parce que le beau temps arrive. La Saint-Patrick, on n'a plus le droit de rassemblement parce que oui, on est dans le temps du coronavirus. Si vous nous écoutez un petit peu plus tard ou en rediffusion ou appelez ça comme vous voulez. On est vraiment dans la grosse période au Québec. On fait plus rien. Il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de baseball, il n'y a plus de football, il n'y a plus de NLH, il n'y a plus de basketball. Tous les sports sont arrêtés présentement par ce petit virus-là. Et
qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là qu'on s'ennuie?
On fait de la bière.
Oh yes!
On écoute les podcasts, on fait de la bière. Il y a plein de vidéos YouTube qui s'en viennent juste pour vous autres. Vous avez le temps de les écouter. Vous pouvez faire des enfants un coup, vous avez fait de votre bière. Ça prend juste 4 heures de faire de la bière. Fait que... Fait qu'on va ramasser avec plein de petits-enfants à Noël, des petits nouveaux bébés, des bébés pandémie, toi, canon, ça.
Ben, c'est le bébé boom, c'est le même mec d'affaires qui est passé au verglas.
Je pensais que tu allais dire au Vietnam. Je sais pas pourquoi je pensais qu'elle allait dire ça. Mais pour revenir à notre lagering, à notre fermentation basse, si toi qui nous écoutes, t'as pas le goût d'investir dans un fermenteur conique, et un glycol pack. Parce que, tu sais, si c'est juste le conique, tu dis, ah, OK, c'est correct. Je vais m'en acheter un. Ça va être cool. T'sais, je le dirai pas tout de suite à ma femme. Je vais utiliser mon 2 minutes pour y dire après. Tu sais, elle va être contente. Mais mettons que tu veux pas parce que, tu sais, c'est ta femme qui porte les culottes dans ton couple. Fait que, tu comprends pas ce que tu veux dire.
Hein? On est égalitaire, tu sauras.
Ah, OK, c'est bon.
Libération de la femme.
Libération de la femme, ouais, puis en tout cas. Fait que, il y a des femmes qui nous écoutent.
Coupé.
Fait que si tu veux pas dépenser, ou si t'as pas les moyens, ou si tu veux pas dépenser des fortunes dans un fermenteur double paroi, comme qu'on vient de parler, tu sais, comme on disait tantôt, là, c'est la crème de la crème, là, ça, mon Kev, là.
Oui, ça va vous donner quelque chose de constant. Vous allez tout contrôler de A à Z. Donc, vous êtes capable de le faire la bière 3, 4, 5 fois et ça va coûter la même chose parce que vous avez tout contrôlé. Mais.
Premier exemple qu'on pourrait faire, mettons, tu veux faire une lager, tu veux goûter à ça, tu as le goût de te donner un petit défi personnel. Ben, tu peux prendre une pièce. Moi, j'ai ma première lager que j'ai faite. Chez moi, j'ai une cave et avec une descente de cave. Fait qu'au mois d'octobre, ça descendait environ à 10 degrés dans cette section-là. Puis vu que c'est en dessous de la terre qu'on rentre, bien, c'était plus constant. Pendant 3-4 semaines, un mois, il fallait vraiment que je sois timé. Fait que je le faisais là. Par la suite, j'ai trouvé où est-ce que ma sonde pompe, où est-ce que l'eau descend. Ça restait tout l'hiver à 10 degrés. C'est une petite pièce, toute petite, toute fermée, toute isolée. Fait que cette pièce-là, à cause de l'eau froide, faisait en sorte que ma pièce était à 10 degrés. Fait que tout l'hiver, je pouvais faire encore des lagers dans cette pièce-là. C'est pas l'idéal. Je l'admets. Mais quand j'avais fini de fermenter, je sortais mon fermenteur de ma petite pièce. Mon autre pièce était à 18-20 et je pouvais continuer à faire monter ma température un peu plus tranquillement parce que ma bière était plus froide, était à 10 degrés, fait que ça ne montait pas d'une shot. Fait que je faisais mon diacetyl rest de cette façon-là. Puis je peux dire que j'étais quand même très satisfait de que ça sortait, là.
Puis on ne dit pas que ça ne va pas vous donner un bon produit. Puis surtout, si vous voulez l'essayer, ça ne vous coûtera pas plus cher avec les équipements que vous avez chez vous. Beaucoup de personnes font ça dans leur garage durant l'hiver.
Ouais.
Et que c'est quelque chose de standard, de semblable. Puis qui veut, comme ça vous donne une idée d'avoir une bière qui va être pour le style d'une lager. Et que dans l'évolution... Moi, j'ai trippé sur les IPA pendant des années parce qu'on cherchait du saveur. Puis aujourd'hui, mes goûts ont changé et j'apprécie tellement ce type de bière-là. Facile à boire. J'aime encore les IPA ou les choses goûteuses, mais...
Vous pouvez aussi faire une lager à l'IPA, là.
Une IPL.
Ça, ça pourrait être bien, hein? Une L-A-N-E-A-P-A. Ça se dit-tu, ça? L-A-I-P. Lagering IPA. Oh, whatever. Fait que vous pouvez faire fermentation basse et très houblonnée aussi. Il n'y a rien qui vous en empêche, là. Vous pouvez réinventer vos styles. Puis ça, c'est vraiment cool à faire aussi. Numéro 2. Un petit peu plus d'argent à mettre, un petit peu plus de place pour fermenter. Kev, qu'est-ce que tu ferais?
Bien, si vous êtes capable de trouver sur Kijiji quelque chose de pas cher, un congélateur Tombeau. Et que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent. Et ils utilisent un petit contrôleur qui s'appelle Inkbird, comme lui appelle.
Angry Bird?
C'est ça. Et que ça vous permet justement de contrôler la température de votre congélateur. Donc, moindrement qu'il va monter la température, il va couper le courant pour garder une température. Et que vous êtes capable de mettre vos tours de vitre ou vos autres équipements de fermentation dans le congélateur. Donc, vous êtes capable d'aller chercher un contrôle de température pour quelque chose de beaucoup moins cher.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un kegerator.
Oui, vous allez mettre vos kegs dedans, vous allez garder ça à basse température, vous percez le devant, puis vous avez vos robinets en avant pour pouvoir distribuer de plusieurs kegs.
Fait que ça peut vous faire un en deux ou un deux en un, ou un genre de couteau suisse à fermentation ou à dispense. C'est vraiment intéressant.
Vous avez de la bière, vous allez avoir du choix et de l'espace tant que vous avez de la place chez vous.
Numéro 3. Un petit peu plus dispendieux que le frigo, peut-être à court terme. Prend beaucoup moins de place qu'un frigo ou congélateur Tombeau. Et je vous parle ici du petit kit.
Sans faire de dégâts.
Sans faire de dégâts. Petit kit de Anvil qui ont sorti pour le fermenteur. Super intéressant. Petit coil ici que vous avez besoin d'insérer dedans. En passant, il passe dans un trou de touris. Ça ici, comment on appelle ça, mon cave? Le petit tube qui est là?
Mais normalement, j'ai arrêté un genre de paille à liquide, mais dans un cake, ça ressemble pas mal à ça.
OK, c'est pas un... C'est un...
Thermomètre rectal.
Quasiment. C'est là-dedans qu'on va placer notre sonde, parce que notre sonde a un fil, fait que c'est là-dedans, c'est un thermowell qu'on appelle ça, qu'on va passer à l'intérieur pour avoir la température interne de la bière. Fait que ça va être comme ça ici. On a un bouchon à quatre trous, que pour un, deux, trois, et le quatrième, ça serait quoi, mon cave?
Pour pas bloquer l'oxygène qui rentre dedans.
Ou sortir l'oxygène, le CO2.
Aussi.
Fait qu'on va mettre notre bombe aseptique à l'intérieur. On a besoin d'une petite pompe. Là, je vous le dis tout de suite, Anvil font le kit, là. Il est un petit peu cher. Fait que qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les pièces séparées. Et la pompe, vous prenez une petite pompe à aquarium dans toutes les bons magasins. On va commencer par toutes les bonnes animaleries au Québec ont ça. Puis mettons, vous n'êtes pas là, proche d'une animalerie, mais Amazon ou AliExpress, Alibaba ont ça aussi. C'est vraiment pas cher, ça fait vraiment un job. Vous pouvez commencer avec un petit glacière d'eau froide avec des petits glaçons à l'intérieur pour que l'eau soit vraiment froide. Je vous conseille, dans la fermentation active, de changer vos glaçons assez régulièrement pour être sûr d'avoir une bière tout le temps stable et équitable.
Et donc, votre température extérieure va jouer quand même un rôle sur vos glaçons dedans. Et que si vous faites ça justement pendant l'hiver, vos glaçons vont durer plus longtemps au lieu de les changer régulièrement. Puis pas avoir une température constante. Ça donne un petit défi, mais c'est une option très, très présentable.
Puis l'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le congélateur Tombeau qu'on a parlé tantôt, mettre un petit récipient à l'intérieur, mettre le glycol qui est disponible aussi au brasseur. Si vous ne connaissez pas le brasseur, c'est au 81A Boulevard Georges Gagné Sud, à Delsun. Vous allez rencontrer Fitz le brasseur, qui est moi, la personne qui vous parle derrière le micro ou derrière la caméra que vous regardez présentement. Ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous rencontrer, de vous serrer la pince, mais pour l'instant, je ne le fais pas à cause du...
coronavirus.
Exactement. Au pire, on fait... Puis sinon...
Lavez-vous les mains après.
Oui, on se lave les mains, du Purel, des toilettes, hein, c'est important. Sinon, ben, on se fait un petit signe de salut en arrière du comptoir. Puis ça, ça fait tout le temps plaisir de vous voir. Il y a plein de monde qui se déplace. Je suis vraiment content. Puis ça fait tout le temps aussi plaisir de vous voir sur les internets. Fait que si vous m'envoyez un courriel, un message, plutôt, peu importe, puis excuse-moi de te déranger. Vous me dérangez jamais.
Fait que sinon, si vous êtes écœuré de lui, allez sur Kev en fût. Ça me fait plaisir de vous répondre. Mais lui, il est ouvert pas mal plus longtemps dans la journée et qui est plus disponible que moi.
Mais Kevin Fu va faire un grand plaisir de répondre. Puis ça fait un deuxième, des fois, une deuxième option.
On voit pas les choses de la même façon. On fait les choses différemment. Mais il y a plus qu'une façon de faire une bière.
Exactement. Fait que la deuxième méthode, comme que je vous disais, si vous voulez pas mettre de la glace, la troisième, on est rendu à la troisième. Mais c'est un peu le complément de la troisième.
Continue, là. Ça tu dis vague, là.
Non, non, c'est un peu incomplément la troisième. C'est-à-dire, au lieu de mettre un sac de glace, je sais pas si je l'ai dit, je l'ai utilisé?
Oui, des petits glaçons.
OK, oui, oui, mais l'autre,
Non, après, c'était...
De mettre ça dans un frigidaire, dans un glycol. Je pense que je l'ai dit.
Ben, t'as commencé.
Ah, c'est ça. Je pense que j'ai commencé, mais tu m'as coupé.
Impossible.
En tout cas, au pire, on le coupe en montage. C'est bon. Fait que la quatrième façon, c'est vraiment d'utiliser le glycol, un seau de glycol. Ah non, c'est ça, OK. De mettre le seau de glycol au congélateur ou au frigo, de le percer puis de sortir par la pompe le in, le out, pour passer dans votre coil. Vous pouvez faire plusieurs fermenteurs parce qu'ils ne vont pas fermenter en même temps avec plusieurs pompes dans votre petit glycol qui va vous faire un mini glycol pack.
Et que si vous faites ça, faites juste attention quand vous allez percer votre congélateur parce que parfois, le refroidisseur du congélateur est sur le côté et que vous ne voulez pas percer ça. Donc, sinon, vous allez carrément scraper votre congélateur.
Fait que soit qu'on met un petit morceau de bois pour monter un peu comme qu'on fait un kegerator, soit qu'on passe par le dessus ou soit qu'on passe en dessous où est-ce que le compresseur, c'est des petits trucs que c'est facile à pas percer dans le frigo.
Il y a plus d'expérience que moi avec poser des questions en fait.
Je l'ai fait quelques fois, puis mes congélateurs fonctionnent encore super bien, fait que j'ai quand même assez bien réussi. Si vous voulez voir un frigidaire qui n'a pas marché, mais venez au brassage, j'en ai eu un démo en avant, que la personne a percé direct dans le milieu du frigo, flambant neuf, dans le crête, 200$ à l'eau, fini, final, on recommence, on en ajoute un nouveau.
Puis si vous avez les moyens, cassez-vous pas la tête, faites comme moi, achetez-vous le bon stock en partant, puis ça va vous garder, puis vous n'êtes pas obligé de repayer une deuxième fois parce que vous allez changer d'idée plus tard pour avoir quelque chose de plus hot.
Exactement, mon beau Kevin Fu. Fait que vous n'avez plus aucune excuse de pas faire ou de pas essayer de faire des lagers.
Vraiment? Puis oubliez pas, les lagers n'est pas nécessairement rien qu'une pilsner. Normalement, on pense à une lager, on pense tout de suite à bière pâle, léger, qui ne goûte pas grand-chose. Une lager, les types de bières sont très... Il y a beaucoup de types de bières. On a les Baltic Porter, on a les Munich Dunkel.
Ça, c'est bon.
On a les Buck, les Double Buck, les Oktoberfest... Continue.
Les Vienna Lager. Ouais. On a les Pilsner Lager. On a les... les Lager Bavaroises. Hey, ça a été long, hein? C'est hyper noir ici. Que les Lager Bavaroises. On a plein de sortes de Lager quand même de disponibles. Et vous pouvez inventer votre propre style de Lager, comme dans les L présentement, qu'il y a plein de styles qui pop un peu partout. Ben, on peut faire la même chose avec les Lager. Il suffit juste de faire une bière, d'utiliser une levure, vous lisez sa levure, si vous avez une idée en tête, ben lis sa levure, lis ton grain, crée ta bière, crée ton style, apporte ça au brasseur pour que je puisse y goûter, amène ça à Kevin Fu pour qu'on puisse y goûter. En passant, là, je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis vraiment satisfait du service que Ça coule à flot nous donne en nous aidant à nous approvisionner de nos bières pour nos podcasts.
Un gros merci.
Un gros merci. Et tout le temps, mais j'aimerais vraiment ça que si vous voulez, ma gang de vous autres qui nous écoutez, amenez-nous, mettons, trois bières. Une pour le podcast, puis une qu'on peut déguster un petit peu avant pour se faire une idée, surtout si on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on boit. Une petite description de qu'est-ce que vous avez fait. Si vous voulez la recette, si vous ne voulez pas, c'est pas grave, mais au moins une description du style de bière que vous voulez faire, le pourcentage d'alcool, puis on aimerait ça peut-être la présenter dans les prochains podcasts qu'on fait. Ce serait super intéressant, puis on va essayer de le jumeler avec de la bière qu'on déguste de professionnel, pas pour faire un comparatif amateur-pro, mais plus pour faire un comparatif de deux types de lager ou deux types de New England IPA ou deux types de... Peu importe les deux types qu'on va faire.
Parce que les bières, on peut avoir le même style et même ces deux professionnels qui l'ont fait vont goûter complètement différent. Rappelez-vous une recette. Hey, quand ma mère faisait cette recette-là, c'était meilleur. C'est pourtant la même recette.
Ma mère faisait le meilleur bouffe au monde.
Ça se peut.
Hein, tu pourras jamais goûter.
Ben, c'est ça. Fait que là, maintenant, si vous nous permettez de goûter à vos bières, on aimerait s'en parler. Soyez humbles. Soyez prêts à garder un esprit ouvert. On n'est pas là pour vous bâcher. On n'est pas là pour vous écraser. Le but est toujours de s'améliorer pour avoir un meilleur produit.
Puis de vous aider aussi. L'important, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est essayer de trouver votre lacune dans votre système de brassage. Fait que si vous nous expliquez le système avec lequel vous fonctionnez, mais ça va nous faire un grand plaisir de vous donner peut-être des petits trucs, des petites astuces, comment régler ça, tu sais. Puis des fois, ça a l'air aussi con qu'au lieu d'utiliser de l'eau de la ville, mais prends de l'eau en bouteille ou prends un filtre au charbon, puis ça va vraiment aider ton processus.
Parce que tout dépendant aussi que vous êtes dans quelle ville vous êtes, d'un fois, c'est surtout des puits. D'un fois, le taux, la dureté de l'eau est beaucoup trop élevée. Mm-hmm. Sinon, il y a des gens qui vont utiliser justement...
Pas assez minéraux, puis...
Oui, ou le l'autre contraire, quand ils vont prendre l'eau trop dure, ils vont passer dans un adoucisseur au sel, et donc ils enlèvent les minéraux, mais donnent trop de sel à la bière.
300 ppm de sel d'habitude qu'on a testé nous autres à micro.
Donc, regardez qu'est-ce que vous avez chez vous. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez toujours vous informer sur des forums ou peut-être à votre ville qu'est-ce que vous avez. Ça vous donne une idée de savoir si vous avez une bonne eau ou non, ou qu'est-ce que vous pouvez faire sinon d'acheter de l'eau osmosée puis la contrôler de A à Z.
C'est vraiment une bonne méthode de faire, puis je vous le conseille fortement. Mais tu sais, 5$ pour de l'eau. Là. Hey, en passant, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de l'eau de disponible au brasseur. Si vous n'avez pas vu les posts Facebook passer, au brasseur, on a maintenant de l'eau distillée avec tous les minéraux que vous avez besoin pour ajuster votre eau. Mais on a aussi de l'eau amaro si vous ne voulez pas commencer à ajouter tout de suite vos minéraux.
Et que ça donne de l'eau qui n'a pas été de chlorée dedans et que ça en enlève déjà des mauvais problèmes qu'on peut avoir à votre bière. Parce que, un exemple, chez moi à la prairie, l'eau qu'on va prendre sans filtrer goûte et sent le chlore. Et que vu que l'eau est quasiment toute la bière, s'il y a un mauvais goût en partant de ma matière première, le résultat va refléter dedans.
Exactement, mon Kev. Fait qu'on fait attention à notre qualité d'ingrédients premiers qu'on utilise. Puis la première ingrédient qu'on utilise, et oui, c'est de l'eau.
Vive l'eau.
Vive l'eau.
Solide.
On va revenir sur notre coronavirus. Tu l'as pas, toi, mon Kev?
Moi, je suis tout clean.
T'es tout clean?
Je suis tout propre.
Yeah, moi aussi. Fait qu'on peut se taper dans la main.
Pas plus.
Pas plus. Pas trop longtemps, tu sais. On va aller se laver les mains au purel. On a quasiment fini, fait que c'est correct.
On se garde une gêne.
Oui. Fait que, présentement, si vous avez des questions, on a tout le temps notre courriel podcast@lebrasseur.ca qui est disponible pour vous, pour nous envoyer nos questions. Vous pouvez aussi le faire par Facebook sur Le Brasseur. Vous pouvez le faire sur Fitz Le Brasseur. Vous pouvez le faire par Instagram sur Le Brasseur. Vous pouvez le faire sur Instagram sur Fitz Le Brasseur. Vous pouvez le faire dans le podcast, dans la description. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube, dans la description. Et maintenant, vous avez aussi Kevin Fu qui a son Facebook seulement, Kev?
Pour l'instant, ça va être la page Facebook.
Il n'est pas trop habitué avec tous ces réseaux sociaux-là. C'est nouveau pour lui.
C'est juste assez vieux pour dire que c'était un entre-deux. Là.
Ah, c'est ça. Fait qu'on va le laisser là-dessus.
Merci.
On a aussi le Twitter de Le Brasseur qui est disponible. Je suis peu actif. Si vous êtes vraiment actif sur Twitter, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas beaucoup d'interactions de mon côté sur Twitter. J'essaie d'en faire le plus possible. C'est très difficile en français, le Twitter, fait que laissez-moi une petite chance. J'essaie fortement de continuer à les propager ou à les tweeter. C'est drôle, celle-là. C'est ça. Il commence à être tard, c'est pour ça.
J'ai moins d'énergie qu'au début. Là.
Fait que vous avez toutes ces plateformes-là pour nous communiquer avec nous. Ça nous fait un grand plaisir de vous répondre et d'avoir vos problèmes, parce qu'avec vos problèmes, c'est tout le temps possible de nous améliorer. C'est avec vous qu'on s'améliore et non le contraire.
On a besoin de vos questions, on a besoin de vos commentaires et que ça, on veut apprécier pour que vous appréciez.
Je sais pas si vous avez remarqué, je suis rendu avec de la couleur puis des nouveaux. Là.
Moi, j'ai une nouvelle chemise.
Ouais, c'est ça. Lui, il est encore en vierge de tatou. Mais on travaille fort là-dessus avec mon Kev. Un jour, peut-être qu'il y aura le logo du brasseur de tout à grandeur du dos. Ce serait écœurant. Hein? On veut vos commentaires là-dessus. Si ouais, on a 100 likes, si on Kevin le fait. All right?
Non. Touche-moi pas, toi.
Ça fait y marcher. Fait que c'est tout pour le petit podcast qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Dis à tous tes amis qui écoutent les podcasts, qui écoutent nos YouTube, qui viennent s'apprivoiser au brasseur. Ça me fait un grand plaisir. Tout le temps la matière fraîche, tout le temps de l'équipement le plus frais possible. Une multitude de levures. On est rendu aussi avec Omega. On a Escape Laboratory. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre, Kev?
On a Viking qui n'est pas disponible à grande place pour le malt.
Exactement. On a Viking. On a les Mangrove Jack. On a White Lab de disponible aussi. J'en ai oublié la lever qu'on utilise aussi. La Beau Solution, quand ils vont être disponibles, c'est sûr que Fitz va les rentrer. On a aussi les malts québécois qui viennent de Sherbrooke Inomalt, qui sont des malts exceptionnels. Il m'en manque un petit peu dernièrement. Il y a eu un petit bris d'équipement, mais je travaille fort pour en avoir. Là, je devrais être capable d'aller en chercher avec ma grippe et tout. Qu'est-ce qui serait passé? C'était un petit peu moins disponible. Alors, j'espère que tu as apprécié notre podcast. Puis, Kev, comment tu as trouvé ça?
Moi, j'étais pas mal plus en forme. Ça va bien. On a très apprécié, très content de vous retrouver parce que ça fait un certain temps et on s'en excuse encore une fois.
Yes.
Et une fois encore, on remercie nos amis de ce Chaco Laflo.
Fait que merci les amis. À la prochaine. Puis, on se dit dans le prochain podcast. Là, on va essayer d'être plus constant. Dans 2 semaines, maximum, vous en avez 1/4. Fait que, bye les amis, à la prochaine.
Bonne brasse tout le monde.